Lui, c'est le dirigeant du mouvement Greatness. Je pense que vous avez déjà entendu parler du mouvement Greatness. C'est un ministère des jeunes et il est en train de faire des choses exceptionnelles pour la gloire et l'honneur de Dieu là-bas. Merci beaucoup pour votre courage, mais aussi pour votre fidélité à l'appel de Dieu. Est-ce qu'on peut l'apprécier encore une fois et l'honorer? Leo Kabisa Niko Katia Wepo. Je suis au milieu de l'onction, dedans même. Et je suis à côté de moi, je suis avec Papa Diexos. Il n'est plus à présenter. C'est le directeur régional de EE. Il est ancien de l'église ici à la CBK Gomaville. Et je suis également honoré de m'asseoir à côté de lui aujourd'hui pour ce panel. Bienvenue, Papa. Est-ce qu'on peut aussi l'honorer par des acclamations? Oui. Il y a un homme sage qui m'a dit que l'honneur va aux hommes et la gloire va à Dieu. Donc, honorons ces hommes qui sont en train vraiment de répondre fidèlement à l'appel de Dieu pour leur vie. Amen. Voilà. Alors, sans plus tarder, je pense que nous allons commencer avec les questions du jour. Et la première de ces questions-là, on nous dit, à vrai dire, qu'est-ce que la bonne nouvelle ou quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce que c'est l'histoire de la croix, la naissance de Jésus, sa mort ou sa résurrection, ou la promesse de la vie éternelle, ou la venue du Christ? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Est-ce que c'est l'une de ces choses? Ainsi de suite. On va commencer avec the bishop.
Kedros, c'est beaucoup mieux. Hein?
Kedros. Yes. Kedros the Great. C'est comme ça que je l'ai lu sur Facebook, si je ne m'abuse.
Ouais,
c'est ça.
Kedros the Great Eagle Entire. Le grand aigle.
OK.
Mais c'est Kedros. Comme nous sommes entre jeunes, est-ce qu'on peut célébrer les Seigneurs? Voilà, merci beaucoup, Papa Jérémy. Est-ce qu'on peut aussi acclamer Papa Jérémy, s'il vous plaît? On peut l'acclamer très bien. Un homme de Dieu merveilleux. Voilà, nous l'aimons beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, par rapport à la première question, est-ce qu'on peut acclamer aussi pour le président Emery?
Merci.
Tu vois, tu as savoir acclamer président Emery.
Oui, oui.
On acclame le président avec toute l'équipe. Voilà, merci beaucoup. Il faut qu'on acclame aussi l'équipe technique, s'il vous plaît. Ils ont aussi besoin de... Voilà. Alors, dans les panels, généralement, c'est très bon. Nous devons venir avec, l'appui biblique, justement, pour appuyer ce que nous avons eu à prêcher. Mais aussi, des fois, dans les panels, c'est toujours très bien lorsque le prédicateur parle directement en provenance de leur cœur. Tu vois? Parce que des fois, avec les prédications, nous nous préparons et tout, et nous venons, des fois, on donne par rapport à ce que nous avons préparé. Dans les panels, des fois, nous parlons directement de notre cœur. Et c'est aussi une très bonne chose. Et des fois, lorsqu'on libère comme ça de paroles, facilement, les gens peuvent s'identifier dans ce que nous leur disons. Alors, je vais aller tout droit par rapport à la première question. La première question, savoir, c'est quoi, au fait, la bonne nouvelle? Moi, j'ai metté par rapport à cette question, et je me suis dit, au fait, c'est une question vraiment pertinente. Vraiment une question, pour moi, je ne l'ai jamais écouté, je ne l'ai jamais vu de cette façon-là. Mais moi, personnellement, vraiment personnellement, la manière dont je comprends la bonne nouvelle, il s'agit tout simplement de Jésus-Christ. Pour moi, en tout cas, la bonne nouvelle, il s'agit de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on voit toutes ces choses que les bien-aimés a énumérées. Il a parlé de la croix, de la naissance de Jésus, de sa mort, sa résurrection, la promesse de la vie éternelle, la venue de Jésus. Et même dans notre credo. D'ailleurs, notre credo, vraiment, c'est le résumé même de cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Mm-hmm. Pour moi, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est comme le package avec tous ces éléments, la naissance, la mort, la résurrection, la promesse de la vie éternelle, tout en Jésus-Christ.
Amen.
Simplement, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ pour moi.
Merci beaucoup. Papa Diexos, quelque chose à ajouter?
Merci beaucoup pour la parole. Bon après-midi à tous. Oui, en fait, quand le pasteur essaie de répondre à la question, je me disais, mais est-ce qu'il était avec moi ou c'est comment? Bon, mais je ne peux pas avoir une réponse contraire parce que c'est exactement cela.
Oui.
La bonne nouvelle, c'est une personne. Et c'est Dieu lui-même, oui. Comme le pasteur venait de le dire. Et nous l'appelons bonne nouvelle, pourquoi? Parce que je crois que c'est important qu'on ajoute cette nuance-là.
Yes.
Parce que nous étions nés loin de Dieu, ennemis de Dieu, condamnés à mort aux yeux de Dieu. Maintenant, l'homme a utilisé la religion pour essayer de trouver sa voie vers Dieu, en posant des actions, en essayant d'être bon, et ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Alors maintenant, quelqu'un qui est condamné à mort, on vient l'annoncer que tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui vient de mourir à ta place. Toi, maintenant, tu es déclaré juste. Alors, c'est comme ça que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça vient nous libérer de la condamnation que nous méritions, mais parce qu'il y a celui qui est la bonne nouvelle qui a pris cette condamnation à notre place. Et ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. On peut vraiment l'acclamer parce qu'il a fait beaucoup pour chacun de nous.
Amen.
Merci.
Merci beaucoup pour ces très grandes réponses. Donc avant la bonne nouvelle, ce que je tire aussi de l'intervention du papa d'Exos, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a restauré cette gloire. Amen. Nous sommes dans la gloire à cause des lèvres de Christ, qui est également cette bonne nouvelle. Merci beaucoup. Je me tourne encore une fois vers vous. C'est comme si les gens vous ont écouté vraiment avec attention. Alors, la question dit, le pasteur Cédré, on vous a même cité dans la question, donc vous n'allez pas y échapper. Par le passage dans Actes, il a dit que nous devons aller avec la puissance du Saint-Esprit. Mais comment on reçoit l'assurance de cette force ou puissance afin d'aller avec? Comment on peut se revêtir de cette puissance exactement? Est-ce que c'est une conviction personnelle ou quelque chose qui nous est donné? Et comment avoir l'assurance? Donc ça se répète, comment avoir l'assurance de la puissance du Saint-Esprit? Caribou.
Waouh! C'est vraiment intéressant. Amen, oui. Amen. Et ce n'est pas seulement une question, donc c'est vraiment une question avec plusieurs sous-questions.
Oui, oui.
Amen, amen.
Amen.
Voilà, le acte des apôtres dont le bien-aimé a fait mention dans la question, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Il est écrit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples avant son ascension. Et il est en train de leur parler de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et là, il était en train de les promettre. Alors là, je vais vous donner un autre peut-être devoir, c'est que vous allez lire Actes chapitre 2. Et tous, nous connaissons très bien, je pense, la semaine de la Pentecôte va commencer dans quelques semaines. Là, nous voyons le Saint-Esprit venu et inaugurer les débuts de l'Église. Alors, dans la question, il a commencé à poser la question de savoir comment on reçoit l'assurance de cette force, de cette puissance du Saint-Esprit. Il a beaucoup plus martelé par rapport à ça. Afin d'aller avec, comment on peut se revêtir de cette puissance exactement? Est-ce que c'est une conviction personnelle ou quelque chose qui nous est donné? Il insiste, comment avoir l'assurance de cette personne? Là, je vais déjà commencer en disant ceci, c'est que la puissance, au fait, du Saint-Esprit vient avec la venue du Saint-Esprit. Et c'est un cadeau, c'est une promesse que Jésus a faite à ses disciples. Et il l'a réalisée dans Actes 2. Depuis Actes 2 jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est là. Lorsqu'on accepte, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter dans les disciples de Jésus. Donc, il est là. Et lorsqu'on pose la question pour savoir la conviction, en fait, ce n'est pas une simple conviction personnelle. C'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia.
Amen.
C'est par la foi. C'est par la foi que nous recevons. Même pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir Jésus-Christ dans sa vie, ça se fait par la foi. Tout se passe par la foi. Dans le royaume de Dieu, nous fonctionnons avec la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, c'est quoi la foi? Dans Hébreux, on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par la foi que nous recevons toute chose qui est rattachée dans ce qui concerne le royaume de Dieu, y compris le Saint-Esprit. Donc, déjà, ce n'est pas tout simplement une simple conviction, et il n'y a pas que j'ai créé les. C'est par la foi que tu reçois l'assurance que tu as le Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit à toi, tu as avec toi la puissance du Saint-Esprit. Et moi, je pense, je comprends aussi quelque part le fond du bien-aimé. c'est que des fois, lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, nous pensons, il y a certaines personnes qui peuvent penser directement que le Saint-Esprit fonctionne comme les sorciers avec le baguette magique. C'est que forcément, il doit y avoir des manifestations. Il est vrai, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit surtout le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, du début jusqu'à la fin, lorsqu'on voit l'œuvre du Saint-Esprit ou la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, c'est ça justement, on voit des manifestations. Les manifestations ne sont pas toujours l'approbation de la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit et nous sommes conscients que nous avons la puissance. Cette puissance-là, en nous, nous transforme nous-mêmes. C'est cette puissance-là en nous qui crée en nous la conviction que nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est cette puissance du Saint-Esprit en nous qui nous transforme. Parce que justement, je suis en train de parler de la bonne nouvelle. Pour recevoir cette bonne nouvelle-là et être une personne qui embrasse cette bonne nouvelle-là et reflète cette bonne nouvelle-là, tu dois te laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par la foi. Donc, c'est vraiment au-delà d'une simple conviction personnelle, c'est par la foi que nous recevons. Par la foi que nous recevons cette puissance-là. Et cette puissance est en œuvre lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Amen. Amen. Papa Diexos.
Oui, merci beaucoup. La question, elle était très pertinente.
Oui.
C'était une grande question qui démontre aussi une grande soif.
Yes.
Et j'ai aimé la question.
Oui.
Parce que ça nous pousse dans la pratique
oui.
de ce que nous avons appris.
Mm-hmm.
Au fait, comment avoir l'assurance que l'on a cette puissance-là? Il faut se rassurer d'être passé par le processus légal d'acquisition de cette puissance. Et c'est ce que le pasteur venait de dire. Jean chapitre 1, verset 12 dit, « À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont crié à son nom, elle a donné quoi ?»
Le pouvoir.
Tu ne peux pas dire que tu as de la puissance si tu n'as pas de pouvoir. Donc, ça nous est donné à la conversion. Alors, maintenant, comment marcher dans cette puissance? Comment être sûr qu'on a ça? Il faut vous poser la question. Est-ce que je suis déjà passé par le processus d'acquisition? Parce que je peux avoir une adhésion intellectuelle à la foi chrétienne. J'essaie de pratiquer les choses comme l'Église le demande. Mais est-ce que dans mon cœur, je me suis déjà laissé transformer par lui pour qu'il vive en moi et qu'il soit le reflet de cette puissance par moi? C'est par là que nous devons commencer. Alors, si je suis sûr que je suis déjà passé par le processus légal d'acquisition de cette puissance, alors, il y a un autre travail à faire. L'autre travail à faire, c'est d'entretenir l'atmosphère qui alimente cette puissance et qui l'amplifie. Et ça, nous entretenons par deux grandes choses. Deux seront liées. Premièrement, nous avons une vie de sanctification permanente. Tu as besoin de manifester la puissance de Dieu dans tout ce que tu fais. Vis une vie de sanctification permanente. De deux, cette vie de sanctification permanente, elle est impossible sans l'assiduité dans la méditation de la parole de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu te poussera impérativement dans la prière par la parole de Dieu. Alors, quand tu vis une vie de sanctification permanente, tu médites la parole de Dieu et tu pries par la parole de Dieu, je vous dis, les gens vont dire, il y a Dieu là-bas. Vous n'aurez pas besoin de faire de publicité. Ça va parler de soi, parce que ça ne se cache pas quand c'est vrai. Merci.
Merci beaucoup. Ça ne se cache pas quand c'est vrai. Vous venez justement de soulever quelques éléments qui sont un peu liés à la question suivante. Parce qu'on va commencer ici. Je sais qu'elle vous est adressée, mais on commence ici. Oui, oui. Vous avez dit que nous devons vivre une vie de sanctification permanente, mais le pasteur Cèdre aussi, dans ses interventions, a dit que nous devons recevoir, enfin entretenir aussi cette puissance par la lecture de la Bible et la prière. Maintenant, la personne qui pose la question dit, essaie un peu de nous expliquer comment certains lisent la Bible et utilise cette même parole-là pour escroquer, pour, disons, malmener les gens. Et cette escroquerie-là fonctionne. La même Bible, elle est utilisée, oui, pour des bonnes choses, nous amener à témoigner du Christ. Mais la même Bible, elle est utilisée justement pour escroquer des gens. Et cette même escroquerie, là, fonctionne. Comment se fait-il que ça arrive de cette manière?
Merci beaucoup pour cette question. Je vais commencer par un verset qui nous est tous familier. Osée. Mon peuple périt. Par quoi?
Manque
de connaissances. Nous devons comprendre que tout est dans la Bible et la Bible ne nous a pas caché des choses. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, le verset 16, vous pouvez lire aussi Matthieu chapitre 24, le verset 13. Vous pouvez aller dans Pierre et Timothée, vous allez voir, la Bible nous alerte sur un danger, les dangers de faux prophètes, les dangers de faux enseignants. Alors, les faux enseignants, ils utilisent la Bible pour tromper les gens. Et ça fonctionne pourquoi? Parce que vous êtes ignorants. Et le diable profitera toujours de l'ignorance des enfants de Dieu pour faire dans leur vie tout ce qu'il veut. Parce que tu ne connais pas. Tu veux quoi? Alors, mes frères et sœurs, s'il y a une seule chose que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous devons sortir de l'ignorance. Vous devez vous connaître, connaître vos droits et exercer vos droits. Parce que la Bible, dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit que les derniers jours seront durs, si bien que si cela était possible, même les élus seraient séduits. Alors, l'alerte est au niveau rouge, frères et sœurs. Concentrons-nous à connaître et avoir la vraie connaissance pour tamiser toutes les sollicitations qui viennent vers nous au nom de la Bible et à lecture même de cette même Bible. Merci.
Merci beaucoup, Papa Dixos. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, n'est-ce pas?
Voilà, nous avons vraiment une connexion. Depuis la dernière fois, je l'avais dit vraiment, nous avons le même feu, le même fardeau, en tout cas, pour le royaume des cieux. En tout cas, merci beaucoup. Une chose aussi peut-être à dire par rapport au bien-aimé qui a posé cette question, c'est que je vais toujours dans le même angle que l'homme de Dieu, Papa Directo. Dans Galates 4, au premier verset, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. Et ça, c'est l'un des plus grands problèmes avec les croyants, les enfants de Dieu. Lorsqu'on ne veut pas grandir, lorsqu'on ne veut pas grandir vraiment dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Je pense que tout au long de cette série, on a martelé vraiment sur l'importance de croître, de grandir dans sa relation avec le Seigneur, de laisser Christ grandir dans nous. Et c'est très important. Alors, les bien-aimés qui a posé la question de savoir... Justement parce qu'on a encouragé, pour entretenir la puissance de Dieu, il y a la prière, il y a la vie de sainteté, il y a la méditation de la parole de Dieu. Écoutez, cette même parole, elle est puissante. Mais en même temps, la Bible n'est pas tout simplement un livre d'histoire. C'est un livre très spirituel. C'est vrai, c'est un livre très spirituel, mais c'est un livre qui est à la portée de tout le monde. C'est un livre qui a la portée de plusieurs croyances. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser la Bible, même si elle est pour nous, les enfants de Dieu. Ce qui fait que, c'est vrai, l'homme de Dieu a parlé de faux prophètes parmi nous, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas vraiment même des faux prophètes, ce sont des païens, mais qui utilisent aussi la Bible. Le diable a utilisé la Bible. Souvenez-vous dans Matthieu 4, pour venir tenter le Seigneur, il a utilisé quoi? C'est la parole de Dieu qu'il a utilisée. Si déjà le diable peut utiliser la Bible, n'importe qui peut utiliser la Bible. Mais Jésus, pour contre-attaquer le diable, il a utilisé aussi quoi? La parole de Dieu. C'était un combat de parole contre parole. Le diable était en hérésie et il utilisait, c'est vrai, la parole de Dieu qui est dans la Bible. Les psaumes qu'il a utilisés, c'est vraiment, tu peux trouver ça et c'est bien dans la Bible, mais il est en train, en fait, de manipuler. Ce qui fait que c'est très important pour nous de croître, bien-aimés, de grandir, La dernière fois, si j'ai martelé sur le point que nous ne devons pas lire la Bible tout simplement parce que ça fait beau. Hein? Chrétien, nous devons lire la Bible. Nous devons chérir la parole de Dieu. Mm. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. L'autre dimanche, là, j'avais donné même des exercices. J'avais dit, c'est vrai, il y a les titres bibliques, mais aussi à la lecture de la Bible. Déjà, les titres bibliques, c'est déjà catastrophique. Même la lecture, c'est tout un problème. Et bizarrement, nous sommes prêts, nous voulons aller discuter. Voilà, nous, nous sommes comme ça et tout ça là. Mais beaucoup de gens ne savent pas la parole de Dieu. Et c'est souvent sur ces terrains-là, lorsque tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, c'est là où les gens peuvent te manipuler. Parce que lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, parmi les bénéfices du Saint-Esprit que tu vas rater, il y a l'esprit de discernement. Tu ne sauras pas discerner. Tu ne sauras pas discerner ce que le bien-aimé est en train de dire, si c'est vrai ou c'est faux. Vous savez, dans l'église primitive, il y a ces chrétiens qu'on appelle les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, la Bible dit ceci, ils examinaient tout ce qu'on leur prêchait. Qui était en train de les prêcher? Ce sont les disciples qui ont vécu avec Jésus. Ce sont des gens qui ont marché avec Jésus. Ce sont des gens qui, tu le crois sur parole. Mais les chrétiens de Bérée, ils ne se sont pas limités à les écouter sur parole. Ils examinaient. Tiens, ton voisin, examine. Examinons, tu sais, mais bien, examinons. C'est ça. Voilà pourquoi c'est très important pour nous, bien-aimés, de nous discipliner à aimer la Bible, à chérir la Bible. Et ce sont des choses vraiment pratiques. Nous ne voulons pas nous embrayer dans beaucoup de choses. Parce que des fois, lorsque nous voulons chercher des choses extra, c'est là où nous, en tant que chrétiens, nous nous perdons. Et pourtant, ce sont des choses simples comme ça qui nous solidifient, qui nous édifient dans notre vie spirituelle et qui créent comme une protection contre toutes les hérésies qui peuvent nous déstabiliser. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je suis vraiment content. On peut acclamer, oui, pour ça. Je suis vraiment content que le frère Kedros a soulevé ce passage parce que j'étais en train justement de les lire pendant qu'il parlait. Oui, oui. Donc, ça va revenir. C'est vraiment un passage très important parce qu'aujourd'hui, les chrétiens dépendent plus de YouTube, dépendent plus d'Instagram, au lieu de prendre le temps de lire la parole pour eux-mêmes. Donc, revenons vraiment à cette bonne habitude d'examiner toutes les choses que nous écoutons comme ces chrétiens-là, afin de voir si elles sont vraies. Amen. Hein? Alors, on passe à la question suivante et on va commencer avec Papa Dixos. Je pense qu'on a suffisamment parlé de la puissance. Et la quatrième question, justement, parle du fait que certains sont timides. Comment expliquer ça? Je pense qu'il a donné des éléments de réponse là-dessus, que les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas nécessairement spectaculaires, n'est-ce pas? Mais la plus grande des choses, c'est qu'elle nous transforme. La puissance nous transforme d'abord nous, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, on peut directement passer à la question suivante. Une question sensible. Mais on peut y aller. Comment faire pour prêcher une femme faisant le commerce de son corps et qui en est fière car cela lui permet de payer ses factures? Une question à
Wow! Une très grande question. Mais avant que j'y réponde, j'avais un élément à dire par rapport à la question qui était liée aussi à la puissance. Les croyants timides, alors que la puissance, elle est disponible. Le problème, c'est quoi? C'est que, à un niveau donné, les croyants se mettent sous l'autorité de celui qui règne par la peur. Il s'appelle le diable. Il n'a pas d'autre nom. Parce que 1 Timothée, chapitre 1, verset 17, nous rassure le genre d'esprit que nous avons reçu en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, c'est très important que chacun de nous ancre dans son esprit. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de puissance, d'amour et de force. Et il n'y a pas de peur à lui. Comment je suis un enfant de Dieu et j'ai peur? Non, ça ne va pas. Alors, nous ne devons pas être de ceux qui se laissent sous l'autorité de celui qui règne par la peur. Et nous devons connaître que la Bible dit, Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jean chapitre 3, le verset 8. C'est très important que nous cessions de nous laisser dominer par celui qui est déjà vaincu seulement parce que nous restons dans l'ignorance. Alors, quelqu'un qui, pour lui, ça c'est mon business. Laissez-moi tranquille, non? Pourquoi vous voulez me déranger? C'est une très grande question, mais on n'aura pas d'autre voie que d'être courageux, de confronter les gens à la vérité de la parole de Dieu. Pour qu'il y ait transformation, il doit y avoir une confrontation de la personne avec Dieu lui-même. S'il n'y a pas de confrontation entre la personne et Dieu lui-même, pendant que la personne écoute la parole de Dieu, il n'y aura pas de regret pour les péchés, il n'y aura pas de repentance, il n'y aura pas de confiance à Dieu. Alors, en tant qu'évangélistes, nous devons nous rassurer que nous faisons ce travail pas par la tête. Ce n'est pas question de la tête. Ce n'est pas question de méthodologie. Non. C'est question de qui est-ce que nous sommes en train d'annoncer et qui est avec nous. Alors, quelqu'un qui dit ça, c'est mon business, il faut prier pour lui et le confronter à la vérité de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 16, Paul dit, si c'est dans cette vie ici seulement que nous espérons en Christ, nous sommes comment? Les plus malheureux de tous. Et pourtant, des personnes comme celle-là, elles s'attachent à des choses comme ça, même à d'autres formes de péchés qu'ils entretiennent consciemment. Au prix de quoi? De ce que moi je vais gagner aujourd'hui, de ma vie présente. Et Paul dit, ces gens sont des malheureux. Nous devons avoir pitié d'eux et aller vers eux et leur dire, mes amis, il y a une solution disponible pour vous. Il y a une vie en dehors de cette médiocrité de forme de vie que vous êtes en train d'entretenir dans le péché. Christ peut vous libérer de cette obsession et vous donner une meilleure vie que celle que vous vivez. Parce que ici, vous ne faites que détruire votre vie au lieu de la gagner. Merci.
Amen. Donc, confronter la personne. Il faut que Dieu lui-même confronte la personne.
Yes.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, n'est-ce pas?
Oui.
Et du jugement à venir. Donc, si le Saint-Esprit lui-même ne convainc pas, ça sera un peu difficile. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus?
Oui, en fait, l'homme de Dieu, il a tout dit. À dire là, nous devons juste nous rappeler une chose. C'est vrai, nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle. Et j'ai beaucoup aimé, vous avez souligné aussi, c'est qu'il y a vraiment une mauvaise nouvelle.
Oui.
Il ne faut jamais ignorer. Quelque chose que je peux peut-être ajouter sur ce point-là, c'est que lorsqu'on décide de suivre Jésus-Christ, parce que pour être disciple de Jésus, nous devons le suivre. Et tout au long vraiment de la série, on a martelé sur le fait que lorsqu'on suit le Seigneur, ça implique qu'il y a des choses que nous devons laisser.
Oui.
C'est clair. Ça implique qu'il y a un agenda que nous devons laisser. Les premiers disciples doivent déjà nous enseigner comment nous aussi nous devons suivre le Seigneur aujourd'hui. Ces gens, ils ont laissé leurs femmes, ils ont laissé tout leur business, ils ont tout laissé. Et Pierre est en train de dire, nous avons tout quitté. Cela renseigne sur la manière dont nous aussi aujourd'hui nous devons suivre le Seigneur. Qui que nous soyons, parce que désormais, lorsqu'on suit le Seigneur, nous sommes ses disciples. Nous devons non seulement nous appliquer à son message, mais aussi nous devons marcher comme lui, il veut que nous puissions marcher. Et désormais, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, ce qui fait que nous devons vraiment, là je vais beaucoup plus marteler sur le fait que nous devons faire confiance à celui qui nous appelle. Parce que le plus grand problème aussi, justement avec cette génération, nous sommes prêts même à accepter Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas prêts à lui faire confiance. Donc nous acceptons Jésus-Christ, mais nous avons aussi nos calculs. Donc au cas où ça ne fonctionne pas, je peux aller encore pécher. Au cas où ça ne fonctionne pas, nous devons être comme surtout les amis de Daniel. Qu'il vienne nous sauver, qu'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas fléchir devant la statue. Ouais. C'est ce genre de mentalité dont nous avons besoin actuellement. Que le Seigneur vienne me sauver. Je suis en train de m'adresser à cette sœur. Qu'il vienne t'aider à payer tes factures ou pas. Bien-aimé, lorsque tu décides de suivre le Seigneur, nous devons être radical. Qu'il vienne te sauver ou pas. Si tu vas dormir dans la route, si c'est même mourir pour le Seigneur, ces gens de l'église primitive, ils étaient heureux. On les appelle des martyrs. Ils étaient heureux lorsqu'on les tuait même pour le Seigneur. Si on commence à avoir peur à cause des factures, est-ce que nous serons prêts à mourir pour l'évangile? Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est vraiment important. Nous devons faire confiance à celui qui nous a appelés.
Amen.
Merci.
Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole de puissance? Donc, ça ne se limite pas seulement à croire, mais nous devons faire confiance en Jésus pour toutes les choses. Pas seulement pour notre salut, mais aussi pour notre provision. C'est très intéressant parce que quand vous parliez, je me rappelais de Zachée. C'est bizarre que nous, les chrétiens, on se rappelle seulement qu'il était de petite taille quand on parle de Zachée, mais bon. Il y a quand même de grandes choses qu'il a faites, parce que quand il a reçu Jésus dans sa maison, il lui a dit, voici des choses que j'ai changées. J'étais un escroc avant, mais j'ai quand même décidé de faire quoi? D'amender, de changer de direction, de faire les choses avec droiture. Et je pense que c'est ce que le bishop nous disait, qu'il y a des choses qui doivent changer, n'est-ce pas? Il y a des choix, il y a des choses qu'on doit abandonner si on veut réellement suivre le Christ. Merci beaucoup. Nous avons vraiment été édifiés par cette réponse. Je commence avec vous pour la question suivante. On nous dit que selon Marc 16, verset 17, est-ce que la grandeur de la soif suffit pour évangéliser? Alors là, c'est la soif de Dieu, je suppose. Si oui, comment m'y prendre? Est-ce que la grandeur de la soif suffit pour évangéliser? Si oui, comment m'y prendre? On commence avec vous.
Déjà, nous allons lire le Marc 16.
Que 16, verset 17.
Verset 17. Ça, c'est un passage qui est vraiment familier, surtout aux évangélistes. Mais voilà, c'est très important pour nous tous. La Bible dit ceci. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Marc 16, 17, c'est ça? Donc, je pense que le bien-aimé, la soif dont il était en train de parler là-bas, c'est beaucoup plus la soif de ces miracles qui doivent accompagner les témoins.
Possible, oui.
Voilà. Donc, ça retourne encore dans la même question concernant la puissance, marcher avec la puissance de Dieu.
Oui.
Oui, en fait, c'est très important. Et l'homme de Dieu l'a martelé sur le point là, parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment soif de vivre encore ces choses. Amen, amen. C'est biblique, Jésus a marché avec ces choses et c'est très important que nous puissions marcher avec ces choses. Mais comme je l'avais dit l'autre dimanche, et je vais encore le dire aujourd'hui, c'est lorsque nous demeurons obéissants, intimes au Saint-Esprit, tous les jours de notre vie, que ces choses pour nous, les enfants de Dieu, sans rien forcer, parce qu'on les appelle des dons, ce sont des cadeaux. J'aimerais d'abord poser ici la question, est-ce qu'un cadeau peut l'acheter? Un cadeau, on peut l'acheter? On ne peut jamais acheter un cadeau. Un cadeau, c'est un don gratuit. Alléluia. Et ces choses ici, ceux qui auront cru, il y a des choses qui vont les accompagner. Si tu ne les remarques pas dans ta vie, ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que des fois, nous cherchons, en fait, nous voulons chercher des dons que nous n'avons pas. Pourtant, Dieu nous a déjà donné d'autres dons que nous n'utilisons pas. La Bible dit ceci, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Sois d'abord fidèle avec les dons que Dieu t'a donnés. Parce que chacun de nous, Dieu nous donne des cadeaux. Amen, amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Que ça soit spectaculaire ou pas, Dieu t'a déjà donné des cadeaux. Utilise d'abord les cadeaux là que Dieu t'a donnés. Et au fur et à mesure tu es fidèle dans l'usage des dons que Dieu t'a donnés, tu verras, il va commencer à augmenter d'autres cadeaux sans rien forcer.
Amen.
Parce que si tu ne vas pas dans cet angle-là, tu vas tomber dans les mains des magiciens. Tu vas tomber dans les mains des marabouts. Tu seras comme le Simon, le magicien, qui est parti un jour dire aux disciples, je veux aussi acheter sur cette puissance-là. Et je pense derrière ce genre de questions, souvent c'est cet esprit-là de Simon, le magicien qui monte. Alléluia.
Amen.
C'est bon d'avoir soif, mais écoutez, ce sont des cadeaux bien-aimés.
Oui.
Soyons fidèles avec les cadeaux que nous avons. Au lieu de chercher les cadeaux que Dieu ne t'a pas donnés, premièrement, ou que Dieu ne t'a pas encore donnés, commence à observer dans ta vie quels sont les cadeaux que Dieu m'a donnés. Lorsque tu remarques les cadeaux que Dieu t'a donnés, commence à les utiliser. Au fur et à mesure que tu les utilises, tu vas voir Dieu va commencer à ajouter d'autres cadeaux.
Amen.
Alléluia. Parce que la plupart des hommes que Dieu a utilisés, en commençant dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui ont forcé.
Oui.
Vous nous avez donné ici des témoignages. Vous partez à l'hôpital, vous priez. Dans votre tête, peut-être vous n'avez pas prévu de prier pour que les gens guérissent instantanément. Mais en arrivant là-bas, juste une simple prière, il y a des gens qui reçoivent des guérisons instantanées. Parce que dans la Bible, on parle même de la résurrection des morts. Ta présence là-bas, même sans pour autant prêcher et tout, il y a quelqu'un qui était sur le point de mourir. On avait même déjà, il y a le docteur de Kamanjo, le légiste, hein? Il a déjà dit non, la personne vient de mourir. Mais par ta présence dans cet entourage-là, on se rend compte que non, la personne vient encore de ressusciter. Des fois, nous voulons nous attribuer la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que des fois, Dieu nous fait échapper certaines choses que nous lisons dans la Bible.
Amen.
Ce que je suis en train de dire, bien-aimé, vérifions le don que Dieu nous a déjà donné. Utilisons-les. Très bien. Lorsqu'on est fidèle avec le don que Dieu nous a donné, il va ajouter d'autres dons. Mais n'empêche, comme dans la Bible, on dit aspirer au don. C'est une très bonne chose d'aspirer, mais d'abord en utilisant premièrement les dons que Dieu t'a déjà donné. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Waouh. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui veulent lire l'histoire de Simon le magicien, vous allez dans Actes chapitre 8, dans vos Bibles. Prenez le temps de lire afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges que lui et croire que vous pouvez acheter les dons de Dieu. Papa d'Exos, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus?
Juste un élément.
Oui.
Je voudrais aborder l'autre sens de la même question. Est-ce que la soif suffit? Je vais dire oui, ça suffit. Si vous avez déjà la soif, alors, cette soif-là ne va pas vous laisser tranquille. Ça va vous pousser à commencer à raconter aux autres, vous-même, votre témoignage de salut. Quand vous lisez Jean chapitre 4, verset 39, vous allez voir que la femme samaritaine a fait une rencontre avec Jésus. Et après sa rencontre avec Jésus, elle s'est rendue compte que je suis en présence de quelqu'un d'exceptionnel. Ça doit être celui qui était annoncé. Et a reçu cette transformation. Elle est juste rentrée au village. Elle disait aux gens, je viens de voir quelqu'un qui m'a tout dit. Tout ce que j'ai déjà fait. Et elle va parler aux gens qui connaissaient sa vie. Une pute. Et ça suffit pour que tout un village vienne à connaître Jésus et vienne à retenir Jésus là-bas. Alors, la soif suffit. Mais au-delà de la soif, il faut que cette soif te pousse à te mettre debout pour évangéliser. Retenez, mes amis, qu'il n'y aura pas d'évangélisation au ciel. Il n'y en aura jamais. C'est le travail limité dans le temps et l'espace. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit, mais les extrémités dont Jésus avait parlé, est-ce que c'est géographique ou c'est comment? C'est limité dans le temps et l'espace. Donc, c'est géographique et temporel. L'évangélisation, c'est ici et maintenant. Je relâche après ici, il n'y aura pas d'évangélisation. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour la gloire du Seigneur? Eh oui. Ceux qui désirent la puissance, voilà les choses que nous devons également faire. La soif, n'est-ce pas? Peut-être il y a un autre élément qu'il faut toujours se rappeler, c'est que Dieu ne donne pas seulement son pouvoir pour qu'on se fasse plaisir avec. Il a toujours un but spécifique pour lequel il vous donne une certaine puissance. Et plus il a quelque chose de grand qu'il veut accomplir au travers de vous, plus vous allez voir qu'il va aussi vous équiper grandement pour la tâche qui est devant vous. Donc, marchez avec Dieu. Et là, vous allez voir qu'il va vous donner des capacités pour que vous puissiez accomplir ce à quoi il vous appelle. Anyway, passons à la question suivante. Elle dit, face aux questions du genre, qu'est-ce que je gagne concrètement en vous suivant, à part les mesures m'interdisant les loisirs? Donc, il y a des personnes à qui on amène le message de l'Évangile et se disent, « Ah, bah, tu m'attends, j'ai une kataza, si tu n'as pas ta match, hein? que je n'aille plus jouer, je ne sais pas, au basket le dimanche, ainsi de suite. » Papa d'Exos, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là?
Au fait, ça me rappelle l'histoire. Année passée, je suis à Pretoria, et j'évangélise une des serveuses qui nous servait dans le centre d'accueil où nous étions logés. Et je la présente l'Évangile du début à la fin. Arrivée à la fin, pendant que je vais l'aider à se décider personnellement, elle refuse de prendre la décision. Et j'essaie de la poser la question pour essayer de comprendre quelles sont les raisons qu'il faut qu'elle refuse, bien qu'elle a reconnu que ce que tu viens de me dire, c'est vraiment ça. Mais maintenant là, je ne suis pas prête pour prendre la décision. Alors, à chercher à savoir quelles sont les raisons, elle m'a dit, j'ai continué à aimer sortir avec mes amis. Je ne suis pas encore prête à laisser cette vie-là. Alors, le problème que nous avons, c'est que dans les têtes de beaucoup de gens, nous croyons que suivre Jésus, c'est une vie de remplie de ne fais pas. Et ça, c'est une arme que le diable a semée dans les têtes des gens pour obscurcir leur intelligence, comme 2 Corinthiens 4, 4 le dit. Le Dieu de ce monde, il a obscurci l'intelligence des gens. Les gens se cachent dans cela. Non, 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 non. Votre vie chrétienne là, non, non, laissez-moi tranquille. Parce que vous voulez commencer à m'interdire à faire des choses. La vie, la marche avec Jésus, c'est une joyeuse réponse, une joyeuse soumission en réponse à l'amour que Dieu nous a témoigné. Si elle n'est pas une soumission joyeuse, je suis dans autre chose parce que nous devons avoir la relation avec Dieu. Et lorsque nous sommes dans la relation avec Dieu, même quand ton petit ami, disons-nous la vérité, quand ton petit ami dit « Ah, cette jupe-là, je ne l'aime pas », tu l'aimes, n'est-ce pas? Bien que tu aimes la jupe, est-ce que tu vas continuer à porter la jupe? Non! Tu la laisses joyeusement parce que tu aimes la personne qui a donné l'ordre. Alors, quand nous allons aimer Christ, quand nous allons être dans la relation avec lui, la vie chrétienne va commencer à être une vie joyeuse, de soumission joyeuse, non pas une vie de « on m'a dit de laisser, on m'a dit de laisser ». Merci.
Amen, amen. On acclame plus fort encore pour ça.
Alors, ce qu'il faut gagner, il y a beaucoup de choses à gagner, mes amis. Il y a cet aspect que nous avons laissé. Il y a beaucoup de choses à gagner. Voyez, nous sommes à Gomaville. Nous sommes une famille. En Christ, nous gagnons des frères et sœurs. Nous devons savoir que les bénéfices les plus grands que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les relations. Et les relations sont des lois supérieures à l'argent qu'on peut te donner. Alors, la marche avec Dieu ne doit pas être calculée dans les gains qu'on peut comptabiliser à terme des monnaies. C'est plus que ça. Quand on les réduit aux finances, on rabaisse ce que nous gagnons dans cette relation avec Dieu. C'est très grand que les finances. Il y a un papa qui avait dit à ses enfants, « Je voudrais que chacun de vous me montre la tombe qu'il a déjà préparée pour moi. » Et chacun de ses fils a dit, « Ok, papa veut qu'on prépare sa tombe. » Chacun, selon l'image qu'il avait de son père, il est allé préparer la tombe qu'il fallait. Alors, le papa a dit, « Tel jour, je viendrai passer visiter vos tombes que vous avez préparées pour moi. » Et un des fils a compris que non, non, il faut que je prépare autre chose. Il est allé nourrir, tisser de bonnes relations avec les gens. Et le papa a sillonné, il a vu le premier fils, la tombe c'est où? C'est là. Ok, merci. On continue, la tombe c'est l'autre. Et quand on est arrivé vers ce fils-là, il a dit, papa, moi je n'ai pas labouré la terre, mais je vais vous montrer la tombe que j'ai préparée pour vous. Il est allé les faire sillonner les maisons de ses amis. Voici les amis que j'ai déjà préparés. Et le papa a dit, c'est toi qui as compris. Parce que la vie, elle est faite de bonnes relations. Alors ça, nous avons seulement acquis à Jésus-Christ. Dehors, là-bas, vous n'aurez pas une relation qui ne va pas vous profiter. Ce n'est qu'en Christ que nous avons de bonnes relations qui peuvent nous épanouir. Alors, en Christ, nous avons plus que l'argent.
Amen.
Merci.
Amen.
Merci beaucoup.
Oui.
Voilà. Je vais parler de Matthieu 19, 29.
Oui.
Vraiment pour marteler sur ce que l'homme de Dieu était en train de dire.
Oui.
C'est une question qu'on avait déjà posée à Jésus. C'est Pierre, dans Matthieu 19. Il dit, « Seigneur, nous t'avons suivi, nous avons tout quitté. »
Oui.
Et ici, au verset 29, il dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. »
Amen. Donc, voilà. Ça appuie vraiment ce que Papa Diexos vient de dire. Peut-être une autre chose que je peux ajouter quand même pour la question des plaisirs. Je sais que je ne suis pas l'un des panélistes, mais c'est de savoir qu'il y a certains plaisirs qui finissent par nous rendre esclaves. Parce que la même question que le diable a posée au début, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devrez pas manger? Il faut savoir qu'il y a de la liberté dans la limitation. Des fois, il y a des choses qui nous sont interdites pour notre liberté. Parce qu'à partir du moment où nous allons les goûter seulement comme ça, c'est fini, ça va être un cycle et tu ne seras jamais arrêté. Donc, notez vraiment qu'il y a de la liberté dans la limitation. Il y a certains plaisirs qui peuvent finir par nous rendre esclaves. Donc, je voulais juste quand même soulever ça. OK. On passe à la question suivante. Peut-être on peut les combiner. Hein? Mm-hmm. Oui, la question 10 et la question 11. Ah non, la question 9 d'abord. Existe-t-il une différence entre la foi chrétienne et la religion chrétienne? Et lors de l'évangélisation, sur quoi devons-nous marteler le plus? Est-ce qu'il y a une différence entre la foi chrétienne et la religion chrétienne? Et quand on évangélise, sur quoi est-ce qu'on doit insister? On commence avec vous.
Déjà, en fait, c'est une question honnête. C'est vraiment une question honnête parce que je pense vraiment que le combat que nous avons, c'est toujours montrer aux gens qu'en réalité, le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec Jésus. Donc, nous martelons beaucoup plus sur ça. Mais comme les gens sont exposés à plusieurs choses, ce qui fait que, voilà, il y a des gens qui comprennent que, voilà, les christianistes, c'est aussi une des religions et tout ça, là.
Oui.
Et nous ne pouvons pas, quelque part, les en vouloir. Mais nous, ici, comme la question, quand même, il a posé une très bonne question, nous devons maintenant aller présenter, lors de l'évangélisation, présenter la religion chrétienne ou la foi chrétienne. Mm. Comme nous, nous présentons la foi chrétienne, la relation avec Jésus-Christ, on va beaucoup se marteler sur la foi en Jésus-Christ.
Amen.
Amen, amen. Et voilà, simplement.
Merci beaucoup.
Oui, peut-être aussi, je vais juste ajouter quelque chose. En fait, il y a beaucoup de confusion par rapport à la foi chrétienne et à la religion chrétienne.
Oui.
Le christianisme, théologiquement parlant, peut être vu comme une religion, dans le sens où il y a certains principes à observer,
oui.
N'est-ce pas? Dans ce sens-là, on peut voir ça comme une religion. Mais, bibliquement parlant, nous ne la voyons pas comme une religion parce que le fondateur du christianisme, c'est une personne qui est vivante, qui n'est pas morte, avec qui on doit être en relation, comme le pasteur a dit.
Oui.
Alors donc, nous ne disons pas, est-ce qu'il y a une différence entre la foi chrétienne et la religion chrétienne? Non, on ne peut pas les comparer, parce que la foi chrétienne, c'est la foi chrétienne, et ceux qui sont dans la foi chrétienne sont dans la relation avec Jésus, pas forcément une religion telle qu'on peut définir religion extérieurement parlant. Et le message qu'il faut insister dans l'évangélisation, nous l'avons dit au début, l'évangile, c'est la bonne nouvelle et c'est une personne. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 2:2, Paul dit, « Au milieu de vous, je n'ai pas voulu autre chose que qui ?»
Christ.
Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Merci.
Merci beaucoup. Donc, le christianisme, c'est d'abord une relation. Relation avec Christ par la foi, avant toutes ces autres perceptions que le monde a du christianisme. Amen. Amen. Donc, allez et prêchez la foi en Christ. Amen. Alors, on passe à la question suivante. Comment faire lorsqu'on évangélise une personne dont la famille est musulmane? Je vais l'associer à la question 11 qui dit, est-ce que l'appel du missionnaire concerne uniquement la parole de Dieu ou on peut partir pour un autre ministère que celui de la parole? C'est ça, je suppose que c'est celui de la parole. Voilà. On va commencer avec Papa Diexos.
Moi, je vais parler
au... Oui, oui. On commence avec Papa Diexos.
Je vais être bref. L'Église doit être prête à payer le prix de l'évangélisation.
Oui.
Et quand je dis l'Église, c'est vous et moi. Parce que l'Église, ce n'est pas ce bâtiment. C'est moi et vous qui avons crié en Jésus-Christ. Nous devons être prêts à payer le prix. Comment faire quand vous évangélisez une personne qui a un background musulman? Vous savez, chez les musulmans, si vous osez commencer à lire la Bible ouvertement, ton propre père peut prendre le couteau et couper ton cou et te laisser là-bas. Ça, c'est naturel pour eux. Bon, s'il ne veut pas te tuer, par pitié, il peut te chasser de la famille. Alors, quand nous évangélisons l'Église, nous devons être prêts à faire quoi? À payer le prix. Ça veut dire être prêt à prendre en charge des personnes que nous allons gagner à Christ, pas seulement à provenance des backgrounds musulmans. Il y a des hindous, il y a beaucoup de religions qui n'acceptent pas que leurs membres deviennent des chrétiens. Alors, nous devons être prêts à payer les prix. Mais comment les évangéliser? Nous devons les évangéliser à partir de leur Coran. Parce que le Coran parle de la Bible. Oui. Le Coran parle de Jésus. Et il est reconnu comme créateur même dans le Coran. Alors, pour les évangéliser, c'est une formation. Oui. Elle est disponible. Quand ça sera le moment, on parlera de ça.
Merci
voilà.
Beaucoup.
Alors, l'autre question, c'était...
C'était par rapport à l'appel missionnaire. Est-ce
l'appel
que c'est
missionnaire.
Voilà. L'annonce de la parole où on peut servir autrement.
Ici, je voulais dire que chacun de nous doit comprendre que si vous êtes déjà devenu enfant de Dieu, vous pouvez être coiffeur, un chauffeur, un menuisier, n'importe quel métier que vous faites, vous devez savoir que vous êtes en train de travailler à temps plein. Temps plein comment? Comme missionnaire. Dans quel sens? Pour tout enfant de Dieu, nous l'avons dit dans le message passé, il n'y a pas de sacré et de séculier.
Yes.
Pour tout enfant de Dieu, tout est sacré. C'est pourquoi Colossiens 3, 23 dit que tout ce que vous faites, faites-le comment?
De
bon cœur. Alors, donc, ce que chaque enfant de Dieu doit faire dans le travail qu'il fait, c'est de se rassurer que ce travail devient un appât pour gagner les gens à Christ. Si ton travail n'est pas en train d'être orienté de manière à gagner les gens en Christ, tu n'as pas encore compris que tu es missionnaire. Merci.
Merci beaucoup. C'est bon, on peut passer. Je vais combiner la 13e et la 15e question. Et après, on va revenir sur la 14e, où je vais donner à chacun de vous l'opportunité de dire ce que les jeunes que nous sommes, nous pouvons faire après avoir écouté tous ces messages. OK? Alors, la 13e question nous dit comment faire quand on a devant soi une personne qui a une grande connaissance de la parole, qui n'est pas croyant. Et en même temps, la 15e nous dit, on pense que c'est l'esprit qui convainc la personne à suivre Christ. Alors, pourquoi insister? OK? Pourquoi insister si c'est l'esprit qui convainc? Et en face d'une personne qui a une grande connaissance mais n'a pas encore cru, que faire? Voilà, on va commencer avec vous.
Waouh! Vraiment intéressant. Comment faire quand on a devant une personne qui a une connaissance de la parole mais qui n'est pas croyant? Une chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous laisse notre libre arbitre. Déjà, dans Jean 3, 16, la Bible dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a des gens qui continuent à refuser. Qu'il ait beaucoup de connaissances, de paroles ou non, c'est leur décision finale.
Oui.
C'est eux-mêmes qui doivent prendre la décision, soit d'accepter de suivre Christ ou non. Mais nous, notre travail en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a reçu la parole de Dieu et lorsqu'on grandit dans notre propre relation avec le Seigneur, on a toujours envie de parler de Jésus à d'autres personnes. Il y a toujours cette chaleur-là. J'aimerais partager à d'autres personnes. Vous avez fait mention ici de la femme-là. Elle a rencontré Jésus et s'est dit, non, ça, je ne vais pas garder pour moi-même. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose. Et lorsque tu commences à l'expérimenter dans ta propre vie, tu auras toujours tendance à le partager avec d'autres personnes. Mais la décision finale de ces personnes-là ne t'engage pas. Toi, tu as fait ta part. Nous, notre part, c'est tout simplement partager notre foi de Christ à d'autres personnes. Mais c'est à elle de décider. Que nous les aimions, c'est à eux de décider. L'autre grand travail peut être ajouté. S'ils n'acceptent pas, prions tout simplement pour eux que l'Esprit de Dieu les fasse grâce.
Oui.
Tout ce que je peux dire par rapport à ça.
Amen. Amen. Oui.
Oui, je voudrais ajouter juste un élément.
Oui.
Ça, ce sont des cas courants. Vous rencontrez quelqu'un qui veut vous démontrer qu'il connaît toute la Bible du début à la fin. Quand quelqu'un vous approche de cette manière-là, il faut aussi le défier. Posez-lui juste une seule question. Je comprends que tu maîtrises bien la parole de Dieu. qu'est-ce que tu es en train de faire pratiquement dans ta vie avec ce que tu connais de cette parole de Dieu.
Merci.
Amen.
Posez-lui la question, défiez-le, qu'il vous montre des choses pratiques. Parce que la question a dit, la personne vous montre qu'elle connaît tout, mais en réalité, dans sa vie, vous ne voyez pas les traces de cette parole-là. Ouais. Défiez-le pratiquement. Ah, tu connais beaucoup, je vois. Qu'est-ce que tu fais pratiquement de cette parole-là? Après l'avoir défié comme ça, amenez-le vers Jacques, chapitre 2, le verset 19. Pour lui montrer que sa foi doit aller au-delà de la foi des démons. Parce que s'il a une foi qui se limite à la foi des démons, qui est juste une simple connaissance de la parole de Dieu, et ça, ça ne sauve pas. Ces deux éléments, je crois, ça peut l'aider à comprendre que peut-être qu'il est resté au niveau de la foi des démons où il a seulement la connaissance, mais il ne s'est jamais soumis à l'autorité de cette parole. Parce que si cette soumission à l'autorité de la parole manque, on saura tout, mais on ne saura rien.
Amen.
Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et on va conclure ce grand panel. Je vais vous donner juste 30 secondes, chacun, pour dire à ces jeunes ici présents, après tous ces messages, après avoir écouté tous les messages qui ont été donnés au courant de cette série, que doivent-ils faire? Que devons-nous faire? On commence avec vous. Pasteur Cédré.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, en conclusion, ce que nous pouvons dire, pour le moment, parce que c'est vraiment une pause, il y a beaucoup encore de choses à dire. Oui. Mais tout ce que moi, personnellement, je peux nous partager, bien aimé, si nous avons déjà accepté Christ dans notre vie, grandissons dans notre relation avec lui. Laissons Christ grandir dans notre vie. Laissons Christ grandir dans notre vie. Lorsqu'on laisse Christ grandir dans notre vie, il va nous commander, il va nous conduire. Il va nous conduire et lui-même, il va nous amener là où il veut nous amener. Et toutes les autres choses, que ce soit partager la parole, que ce soit faire du bien à plusieurs personnes, toucher, évangéliser, lorsque vraiment on a laissé Christ grandir au-dedans de nous, il sera en train de continuer l'œuvre qu'il faisait lorsque lui-même l'était ici sur la terre.
Amen.
Alléluia. Donc, c'est ça. Laissons Christ grandir au-dedans de nous et croissons dans notre relation personnelle et vivante avec Jésus. De manière maintenant pratique, je reviens encore. Aimons le moment des prières. Disciplinons-nous. J'ai discipliné Kamatata 5 minutes par jour. Tu peux commencer par là. 5 minutes. Là, je vous en supplie comme Paul disait. Je vous en supplie, mes bien-aimés. Prions. Par jour, j'ai discipliné. Et c'est sérieux parce que la plupart des chrétiens ne prient pas. On prie seulement lorsqu'on est ici, prions quotidiennement. En 5 minutes, 10 minutes, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. On a vu des passages bibliques ici qui nous ont montré que ça, c'est parmi les choses que nous devons faire quotidiennement. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. Par rapport à la prière, on dit prier sans cesse. C'est parmi les rares choses dans la Bible et dans ton père, tu fais avec constance. Parce que là, ce sont des choses justement qui nous aident à conserver la puissance de Dieu et nous aident à être victorieux, à marcher dans la victoire que nous avons en Christ. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Amen. Papa Dixos.
Merci beaucoup. À guise de conclusion, je vais dire deux éléments. Premièrement, la meilleure méthode d'évangéliser, c'est de vivre la parole de Dieu, donc vivre selon Christ et parler de Christ. Il y a des gens qui se disent, non, moi je veux seulement vivre, les gens vont voir. La Bible, elle est claire, elle a dit, la foi vient de quoi? Pas de ce qu'on voit, de ce qu'on
on entend.
Ça veut dire que nous devons faire quoi? Témoigner Christ. Je vous encourage à commencer, à partager votre témoignage de salut avec vos amis. Le Saint-Esprit, il est assez puissant pour utiliser cela, pour attirer ces personnes vers lui. La dernière chose, parlant de la mission et de notre implication dans la mission, une seule image, le porteur de la croix. Observez bien, la personne qui porte une croix, est-ce qu'elle a plusieurs destinations? Oui? Non. Est-ce que la personne est sur la route, elle a une démarche de loisirs et de distractions? Jamais. Une seule destination, toujours concentrée et focalisée. Nous voulons être utiles sur cette terre. Alors, gardons à l'esprit que nous sommes des porteurs de croix qui ont une seule destination, qui ont une marche et une démarche bien spécifique, parce que c'est cela ce que signifie la mission, c'est le reniement de soi. Si ta vie continue à compter beaucoup plus pour toi que l'œuvre que Christ te demande de faire, tu es dans autre chose. Merci.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur pendant que ces deux grands serviteurs de Dieu rejoignent leur place? Merci beaucoup, chers serviteurs, non seulement pour nous avoir partagé la parole de Dieu pendant cette série, mais aussi pour avoir répondu à ces questions sous la lumière de la parole de Dieu et de son Saint-Esprit. Amen, amen.
Prions. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les bienfaits que tu n'as cessé d'accomplir dans la vie de chacun de nous, durant toute la période de la série et même dans ces cultes particulièrement. Nous t'aimons pour ta présence et pour tes faveurs. Seigneur, merci pour les dons de la vie et pour ta protection. Pendant que nous sortons de ces lieux, nous prions que tu bénisses chacun de nous. Tu comprends mieux le langage du cœur de chacun parce que tu connais bien les besoins de chacune de nos familles ici représentées. Notre prière, Seigneur, c'est qu'au sortir de ces lieux, nous ne sortions pas seulement avec de la connaissance dans la tête, mais que, Seigneur, cette semaine, ce soit encore une semaine où nous allons être obéissants et soumis au Saint-Esprit pour mettre en pratique tout ce que tu nous as communiqué durant cette série, selon l'immensité de ta grandeur. Père, laisse que cette semaine soit aussi une semaine non seulement de protection, mais aussi de visitation particulière. Que ceux qui n'ont jamais fait des rencontres personnelles avec toi, qu'ils t'expérimentent encore différemment. Parce que tu n'es jamais monotone. C'est pourquoi chaque matin, tu renouvelles ta bonté à notre égard. Toi qui peux nous préserver de toute chute, qui par l'amour de Dieu le Père, et la grâce que nous avons reçue en notre Seigneur Jésus-Christ, et la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, sois, Seigneur, le partage de tout et chacun de nous. Nous prions dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous.